La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Il s'agit d'un territoire qui peut paraître flou, on le dit, moche, pollué, monotone et replié sur lui-même. Voici quelques idées concernant donc cette France périurbaine dont nous allons parler. Les sociologues Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal publient ensemble un ouvrage dans lequel ils affirment que ces zones ne méritent pas leur mauvaise réputation. Et les études montrent qu'il faut nuancer ces visions caricaturales et voir plutôt un espace diversifié et socialement ouvert. Plus de 15 millions de Français habitent les zones périurbaines et la sociologie s'y intéresse depuis peu de temps. C'est cet après-midi donc le dossier de la tête au carré. Nous allons explorer ces espaces qui ne sont ni vraiment de la ville, ni vraiment de la campagne. Et j'attends vos messages dès maintenant sur le site de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, on va s'intéresser aux motifs de couleur dans le règne animal.
Oui, on va s'intéresser plus particulièrement aux rayures. Comment se forment-elles et à quoi servent-elles? Des chercheurs français viennent de percer une partie du mystère de la pigmentation. On en parle tout de suite.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 avec un documentaire consacré ce soir à la quête de la vie dans l'univers. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Irène Menahem.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Nous allons donc explorer dans un instant la France périurbaine en votre compagnie. Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Jean-Marc Stébé, la France périurbaine serait triste et moche, faut-il le croire? Non, évidemment.
Non, au départ, lorsqu'on a commencé à vouloir travailler avec Hervé, mon collègue, sur le périurbain, on avait noté qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, d'idées fausses, et donc l'origine de cet ouvrage, c'est pour casser un certain nombre d'idées reçues, et notamment celle qui était parue il y a quelques années dans un magazine
à la une de Télérama,
ouais. Sur la France moche. Donc on s'est dit avec Hervé, non, on ne peut pas accepter ce type de d'idées fausses sur un territoire qui, comme vous venez de le rappeler, 15 millions de personnes.
Hervé Marchal, est-ce que le périurbain, ce serait une sorte de sandwich entre la ville et la campagne, ou c'est plus nuancé, compliqué que ça même?
Alors on peut le voir comme un sandwich, mais un sandwich complexe, avec différentes tranches, avec différentes odeurs et saveurs, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis aussi, ça veut dire aussi que ce mot périurbain, il faut sûrement le décortiquer, le travailler, aller plus loin, parce qu'il nous empêche de voir toute la complexité.
On va le faire ensemble.
On va le faire ensemble.
Avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Les rayures dans la nature, c'est le sujet de la une aujourd'hui, Axel.
Oui Mathieu, et c'est aussi un des grands mystères de la biologie du développement. Sur le dos du zèbre par exemple, sont-elles disposées parfaitement au hasard ou suivent-elles des règles bien précises? À quoi servent-elles? Ces questions, les scientifiques se les posent depuis plus d'une centaine d'années et une équipe de chercheurs français publie cette semaine une partie de la réponse dans la revue Science. Pour en parler, on accueille celle qui a coordonné ces travaux, Marie Manceau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche pour le CNRS et chef d'équipe au Centre pour la recherche interdisciplinaire en biologie au Collège de France. Alors, vous n'avez pas travaillé sur les zèbres, autant le dire tout de suite. Vous avez travaillé avec des cailles et des faisans, c'est joli aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des gallinacés pour travailler sur les rayures alors?
Oui, c'est vrai que j'aurais préféré les zèbres, ou le léopard, ou la girafe. C'est quand même un peu plus fun. Mais le problème, c'est que c'est difficile d'obtenir des embryons pour ces animaux. Ah. Nous, on travaille sur l'embryon, puisque on travaille sur la formation de la peau, qui est précoce, qui se passe pendant le développement de l'embryon. Et donc, avoir accès aux embryons, c'est difficile. Donc, on fait la chose la plus simple, c'est-à-dire de récupérer des œufs fertilisés d'oiseaux. Donc, c'est pour ça que, comme beaucoup de mes collègues biologistes du développement, je travaille sur l'oiseau. Alors après, pourquoi les gallinacés en particulier, ou les galliformes, donc tout ce qui est cailles, faisans, perdrix? C'est pour deux raisons. La première, c'est parce que on a un accès facile à ces œufs. Il suffit de prendre sa voiture, d'aller en Normandie, serrer la main d'éleveur.
C'est plus facile que le zèbre.
C'est un peu plus facile que le zèbre, ouais. Et voilà, ils nous fournissent des œufs. Donc ça a été une grosse partie du travail du postdoc Nicolas Oppé, qui a fait la majeure partie du travail dont je vais parler aujourd'hui, ouais. Que je salue d'ailleurs. Donc voilà, il a fait ça. Et sinon, la deuxième raison pour laquelle on a choisi ces oiseaux, c'est qu'ils ont des rayures. Ils ont des rayures sur le dos qui s'étendent de la tête à la queue, ouais, et qui alternent noir et jaune. Et il y a pas mal de variations dans ces rayures. On s'intéressait très près justement à cette variation.
Alors avant vos résultats, qu'est-ce qu'on ne comprenait pas bien avec ces rayures? Pourquoi les biologistes s'y cassent les dents à peu près depuis 100 ans?
Alors en fait, ce qu'on pensait, c'était dû principalement à des travaux qui ont été faits chez le poisson, beaucoup de poissons zèbres, puisque les poissons ont énormément de ces motifs pigmentaires, donc on dit périodiques, c'est-à-dire répétés, comme ouais, des rayures, des pois, etc. Donc il y en a une énorme diversité, le poisson c'est super pour ça, et puis il y avait aussi beaucoup de travaux de mathématiciens, de théoriciens. Les deux ensemble ont donné cette idée qu'en fait le motif pigmentaire périodique serait aléatoire. C'est-à-dire que la peau qui se développe au départ est homogène et puis à un moment donné on a un développement de rayures ou de pois de façon aléatoire. Et nous ce qu'on montre c'est que ça l'est peut-être mais pas entièrement. Et qu'en fait, ces mécanismes aléatoires obéissent certainement à des plans, à des choses qui se passent avant dans le développement précoce.
Alors, on va aller regarder comment vous avez fait. L'idée, c'est d'aller regarder l'embryon, vous l'avez dit, pour voir comment la pigmentation se met en place. Comment est-ce que vous avez procédé alors avec ces œufs?
Alors, donc, ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est de trouver la source. La source de cette information qui va dire « mets la bande là, la mets pas là », etc. Donc, vraiment de cette position. Et donc, pour trouver cette source, on fait des expériences qu'on appelle de transplantation, c'est-à-dire qu'on a pris deux espèces qui varient justement dans la position de ces bandes, etc., et la couleur et la taille, à savoir la caille et le faisan. Et on donc des œufs fertilisés, on a pris des embryons et on prend le morceau de tissu de caille.
Une greffe, quoi.
On fait une greffe, voilà, on le transfère dans le faisan. Et ensuite, on remet le faisan à l'incubateur, enfin l'œuf de faisan à l'incubateur.
On referme l'œuf.
On referme l'œuf avec du scotch, on le remet à l'incubateur, on attend quelques jours. Et puis on regarde ce que ça donne sur le motif pigmentaire.
Et ça donne une caille alors ou pas?
Et alors donc deux solutions. Soit ça donne quelque chose qui ressemble au motif pigmentaire d'un faisan. Ah oui. À ce moment-là, on n'a pas greffé le bon tissu, le tissu source. Soit ça donne quelque chose qui ressemble à une caille. Et à ce moment-là, on a mis le doigt sur le tissu source, on l'a greffé. Et donc c'est comme ça qu'on a identifié la source des signaux de position.
Donc en fait, c'est une chasse au trésor. On cherche le bon tissu à greffer. Une fois qu'on a un faisan qui ressemble à une caille, ça veut dire qu'on a trouvé le bon tissu. Et ça, vous l'avez trouvé.
Ouais, c'est un peu plus cadré qu'une chasse au trésor, peut-être.
Une chasse aux œufs.
Mais ouais, une chasse au tissu, on va dire, au tissu source. On avait évidemment des tissus candidats. Celui qui va donner naissance à la future moelle épinière, qu'on appelle le tube neural, était un des très bons candidats, parce qu'on savait qu'il donne naissance aux cellules pigmentaires. Il s'avère que c'est pas celui-là. Et donc, on a testé le suivant, qui s'appelle le somite, qui est un tissu embryonnaire temporaire qui donne naissance aux os, aux muscles et aux cellules de la peau. Et c'est lui qui va donner cette information de position.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme information dans ce somite que vous avez découvert comme étant la source de la pigmentation?
Ben maintenant, c'est la grande question.
Ah, c'est ça, c'est la suite.
Ben, ça, c'est la suite. C'est-à-dire que maintenant, on sait que c'est le somite qui est responsable, qui est à l'origine de cette information. Maintenant, quelle est la nature de cette information? Quel type de molécules? Comment vont agir ces molécules? Quelles vont être les conséquences sur le tissu? Ça, c'est ce qu'on cherche à comprendre.
Mais alors, est-ce que ce somite contredit l'aspect aléatoire justement des rayures ou pas? Est-ce que c'est une preuve pour dire que justement, c'est pas aléatoire?
C'est une preuve pour dire qu'on a un plan. Ouais. C'est-à-dire que les somites sont distribués selon une ligne, selon l'axe antéro-postérieur, ouais, et il va donner cette directionnalité et la position bien précise des bandes. Donc c'est une preuve pour dire que ça n'est pas entièrement aléatoire. Ça ne veut pas dire qu'après, ou même avant, il n'y a pas aussi de mécanisme aléatoire. On peut avoir un mécanisme aléatoire qui est responsable de donner l'information au somite, qui lui donne le plan, et ensuite c'est aléatoire, etc. On peut avoir une chaîne comme ça, temporelle, au cours du développement. C'est possible.
Alors, les rayures sur le dos de ces gallinacées, ou alors peut-être même sur le dos des zèbres, est-ce qu'on sait vraiment à quoi elles servent?
Alors, sur le dos des zèbres, il y a eu presque autant de théories.
Ah oui, ouais, voilà. Tous les ans, il y a un papier sur
c'est
le dos
ça,
des zèbres.
C'est ça. C'est difficile de trouver les raisons écologiques de ces rayures, parce qu'il faudrait pouvoir reproduire l'évolution et faire des expériences sur des dizaines de milliers d'années pour pouvoir tester à quoi ça sert. Donc, c'est évidemment compliqué. On peut faire des hypothèses. On pense que d'une manière générale, les rayures ont une fonction de camouflage. Et puis les petits poussins de gallinacées dont je vous parlais, qui ont ces rayures, eux sont au niveau du sol, dans des buissons, ce sont des oiseaux qui nichent au sol, donc les poussins sont au sol, ils volent assez peu, et donc c'est certainement une manière de les camoufler dans ces branchages, ces feuillages. Voilà, mais ça c'est une hypothèse parmi d'autres, et j'avoue que ça c'est pas vraiment notre domaine de recherche.
Merci beaucoup en tout cas Marie Manceau. Publication Science, hein, on la doit donc à votre équipe française, et c'est promis, on essaiera de vous trouver des embryons de zèbres pour les prochaines recherches. Merci à vous, merci d'être venu. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la philosophe et philologue Barbara Cassini obtient la médaille d'or du CNRS. Membre de l'Académie française, elle a dédié sa carrière au pouvoir des mots, du langage, de la traduction comme moyen de faire avec les différences culturelles. Barbara Cassini sera d'ailleurs notre invitée mardi à 14h. Les coquilles Saint-Jacques vont mieux quand on prend soin d'elles. En Baie-de-Seine et de Saint-Brieuc, deux campagnes d'évaluation de l'Ifremer montrent que la gestion raisonnée a du bon. La mise en place date et les horaires de pêche ainsi que l'amélioration de la sélectivité des engins ont permis une augmentation de la biomasse exploitable d'environ 20% entre 2017 et 2018. La situation en dehors de ces zones, par contre, est plus inquiétante. En un an, la biomasse a été divisée par deux, par exemple, juste en dehors de la baie de Seine. Les plantes grandissent mieux en Arctique à cause du réchauffement climatique. Une équipe de chercheurs écossais s'est intéressée aux nombreuses plantes grasses qui poussent sur les vastes plaines de l'Arctique. En 30 ans, ils remarquent des changements considérables dans la biosphère. Non seulement les plantes endémiques ont une meilleure croissance et se développent mieux, mais les chercheurs notent aussi l'arrivée de nouvelles espèces plus grandes venues de latitudes plus basses, des changements qui vont vite selon les chercheurs et dont les conséquences globales sont difficiles à prédire. Et puis ne manquez pas ce soir à 17h la finale internationale du concours Ma thèse en 180 seconde à Lausanne, organisée depuis 5 ans par la CPU et le CNRS. Le concours propose aux doctorants de présenter leur sujet de thèse en 3 minutes. Si vous souhaitez soutenir Philippe Bouteiller, vainqueur du concours national, qui représentera donc les couleurs de la France, vous pourrez vous connecter en direct à 17h sur le site mt180.fr. Allez, on découvre la France périurbaine dans un instant.
Can you feel the vibe? Waving through me, another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How modulate now? Can
Et c'était Jeanne Haddad avec Mutate.
La tête au carré.
Ce projet, nous devons aussi le bâtir par nos territoires. Nous avons des Frances aujourd'hui à réconcilier. Nos métropoles réussissent dans cette mondialisation. La France périurbaine et la France rurale ont le droit de réussir, de se développer. Et pour ce faire, nous devons aussi leur permettre d'aller de l'avant, investir et laisser faire. Cette France-là le veut, cette France le peut.
Voilà, c'était Emmanuel Macron, 2016, lancement de sa campagne présidentielle à Bobigny. Il évoque donc la France périurbaine, celle qui nous intéresse cet après-midi. C'est le dossier avec vous, Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal. Vous êtes tous les deux professeurs de sociologie à l'Université de Lorraine et vous publiez donc cet ouvrage aux éditions Que sais-je avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé attaque. J'aimerais tout de suite vous demander une réaction par rapport aux propos que vient de tenir justement Emmanuel Macron de cette France donc à réconcilier. C'est un peu stigmatisant finalement ce qu'il dit là, Jean-Marc Stébé, sur la France périurbaine. Hein.
Oui, il reprend une thèse qui a été développée par un de nos collègues géographes, Christophe Guy, il y a quelques années.
Thèse que vous combattez, hein, vous en parlez dans le livre.
Bien sûr, pour éviter justement cette position binaire, tranchée entre une France métropolitaine qui réussirait, peuplée de populations de gentrifieurs, de populations de cadres aisés, et puis sur la banlieue, les immigrés, et puis une autre France, une France périphérique, peuplée de populations, disons, défavorisées, et avec des villages, des villes et des bourgs. Mais c'est une caricature, un petit peu, parce que la France périphérique, justement, de Guy Lui, elle représente 40 millions de personnes, vous imaginez un petit peu, c'est beaucoup, et c'est 34 000 communes sur 36 000 communes. Donc, bien évidemment, la France périphérique est plus hétérogène et n'est pas aussi homogène que le laisserait penser M. Macron ou notre collègue Christophe Guy Lui.
Hervé Marchal, la nuance, hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup de parfums, de textures, de matière, cette France périurbaine. Hein.
Oui, à n'en pas douter, un tout petit rectificatif, je suis professeur à l'Université de Bourgogne à Dijon.
Voilà, pardon.
C'est important aussi par rapport à mon laboratoire, à mon université. Oui, je crois que si on imagine qu'en France, il y a des plaques tectoniques qui se cognent entre elles, on n'y comprend rien. Le périurbain, c'est pas effectivement un univers, une entité homogène qui va se cogner avec l'univers de la ville et qui sera plus ou moins en dissension ou en conflit avec la ruralité. C'est pas du tout ça. C'est bien plus complexe. Je crois que le mot périurbain peut parfois même nous empêcher de comprendre la complexité de ce que recouvre le phénomène. C'est-à-dire que le mot périurbain peut nous empêcher de comprendre ce que c'est finalement la complexité du périurbain. Donc à nous aussi, sociologues, chercheurs, des fois, de se défaire de concepts qui ont moins de portée heuristique, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ne nous permettent pas de voir ce que c'est la réalité dans toute son épaisseur.
Avec justement cette France périurbaine qui semble concentrer toutes les critiques et ce travail finalement de la sociologie qui était nécessaire et qui est très récent finalement, parce que ça commence à partir des années 2000. La sociologie s'y intéressait pas du tout avant.
La sociologie s'y intéressait très très peu parce que beaucoup de sociologues ont pensé pendant longtemps que l'histoire ne se faisait pas là, que l'histoire se faisait ailleurs, à l'usine ou dans des lieux symboliques où il y avait une lutte des classes qui faisait vraiment évoluer fortement la société. Et en fait, le périurbain a été investi par les géographes dans un premier temps. Et les géographes ont bien compris ce qui se passait dès les années 70, dans les années 1980, ils ont bien compris effectivement ce qui se tramait et l'importance de ce nouveau territoire, ou plutôt de ces nouveaux territoires qui émergeaient. Alors les sociologues, je crois qu'il faut rendre hommage à Daniel Pinson et Sandra Thoman qui en 2002 ont écrit un ouvrage « La maison en ces territoires » parce qu'ils avaient bien compris qu'effectivement il se passait quelque chose. Cet ouvrage-là est passé, à mon avis, un peu trop inaperçu, on le dit souvent avec Jean-Marc. Et après, effectivement, les sociologues l'ont investi. Et c'est lié aussi aux échéances électorales, hein, parce qu'il se passait des choses. Ça veut pas dire qu'on vote. Que le périurbain vote FN, hein, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une évolution du vote.
Parce que ça fait partie justement des idées reçues aussi hein, sur le vote extrême de cette zone et de ce territoire qu'il faut quand même définir pour commencer cette émission, Jean-Marc Stébé, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Parce que quelle est par exemple la différence entre la banlieue et le périurbain alors ?
Alors, au départ, c'est l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques qui, au départ, dans les années 50, privilégiait une position extrêmement binaire. la ville-centre, la banlieue et de l'autre côté le rural. Et puis, très rapidement, dans les années 1962 exactement, on fait intervenir une nouvelle zone, la zone de peuplement industriel ou urbaine, ZPIU, qui est une zone intermédiaire entre la ville-centre, banlieue et le rural. Mmh. Et puis, au fur et à mesure du temps, des différents recensements généraux de la population, on s'aperçoit au début des années 90 que plus de 90% de la population réside dans la ville-centre et la banlieue et les ZPIU. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus que quelques pourcents dans les zones rurales. Donc, l'INSEE décide, en 1996 exactement, de revoir le découpage et fait intervenir ce qu'ils vont appeler les aires urbaines. Et les aires urbaines sont constituées d'un côté des pôles urbains, des unités urbaines. Mmh. Une unité urbaine, c'est une ville de plus, c'est une agglomération de plus de 2000 habitants avec une continuité du bâti. Et puis à côté, nous avons les couronnes périurbaines qui sont aussi caractérisés par la continuité du bâti, mais il y a une dimension économique. 40% de la population doit travailler dans cette aire urbaine. Mmh. Voilà un petit peu comment aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un territoire où 40% de la population travaille dans cette aire urbaine.
Alors Hervé Marchand, quelques exemples justement de zones périurbaines bien connues, ou des villes en tout cas, qui incarnent aussi le périurbain. Marne-la-Vallée par exemple, ça peut être...
Alors Marne-la-Vallée, mais si on sort de la région parisienne, je me permets. Non, parce que Nancy... Aujourd'hui, c'est le centre-ville, c'est 106 000 habitants.
Ouais.
Avec la banlieue, l'agglomération, c'est la banlieue, c'est 220 000 habitants. L'aire urbaine de Nancy, c'est plus de 400 000 habitants. C'est 435 000 habitants. Ça veut dire que un habitant sur deux dans l'aire urbaine de Nancy, en fait, vit complètement en dehors du centre-ville et de la banlieue. C'est-à-dire que le périurbain s'est étalé de manière considérable jusqu'à 35 km et absorbe de plus en plus de population. Mais Nancy, Dijon, Caen, Lyon, mais puis bien évidemment la région parisienne. Bien évidemment.
Ouais, Marne-la-Vallée, Villeneuve-d'Ascq, Cergy-Pontoise par exemple, qui sont des zones bien connues. Est-ce que ces zones périurbaines prennent vraiment racine dans l'après-guerre, dans ces années 60, ou est-ce qu'il faut même remonter un peu en avant?
Alors, les historiens ont assez peu travaillé là-dessus, donc on a quelques données. Il y a bien évidemment des traces pavillonnaires dans les années 1930, mais en fait c'est véritablement... fin des années 1950, durant les années 1960, et notamment les politiques d'accession à la propriété, l'État lance des politiques d'accession à la propriété ou d'aide à l'accession à la propriété, plus précisément fin des années 1960, début des années 1970, et là, on a un processus de pavillonarisation de la France. Et les zones pavillonnaires émergent alors là dans de très très nombreuses villes, et on les voit aujourd'hui, c'est des zones des fois de 1000 pavillons, 1200 pavillons préfabriqués qui se ressemblent, et c'est là qu'effectivement c'est un territoire qui devient visible.
C'est en couverture d'ailleurs de votre livre, ce sont ces pavillons individuels, ces petits carrés de pavillons individuels avec leur terrain et leur herbe grasse. Et justement, on va écouter une archive de 1969, parce que la maison individuelle a son importance, c'est même prépondérant dans ce concept de périurbain.
Tous les sondages s'accordent à témoigner qu'en matière d'habitat, les Français préfèrent de beaucoup la maison individuelle. Posséder sa maison avec un coin de jardin bien à soi, c'est le rêve de deux citadins sur trois que la ville est tout. À quelques kilomètres de Chantilly, un cadre moyen a installé sa famille. L'endroit est agréable, l'homme a réalisé son rêve. Nous allons faire la connaissance de ce nouveau propriétaire.
Monsieur Clouzet, où habitiez-vous avant d'avoir accédé à la propriété?
À Saint-Ouen.
Dans un immeuble collectif?
Disons le cran au-dessus des HLM, avec comme vision des usines autour.
Le jour où vous avez dit « je veux une maison individuelle », oui. Comment avez-vous résolu le problème?
Disons, si vous voulez que le facteur professionnel rentrait en première ligne, je devais éviter de faire des parcours trop gigantesques. Et je me suis dit que dans un rayon de 35 à 40 km autour de Paris, ce qui comptait, c'était pas les 20 km, c'était les 20 premiers kilomètres qui étaient importants. À partir de là, si vous voulez, je suis tombé dans cette région-là. Étant donné que j'étais guidé par les massifs forestiers...
Vous cherchez la forêt?
À tout prix. Et puis la quasi-certitude que je ne verrais pas à nouveau Sarcelles à côté, puisque ce sont des forêts domaniales.
Jean-Marc Stébé, le rêve pavillonnaire, là on y est vraiment dans cette archive.
Bien sûr, comme le rappelait Hervé, en 1968, il y a 38% des Français qui possèdent un pavillon. Mmh. Et à la fin des années 80, on en est à plus de 68% de personnes qui vont construire leur pavillon. Donc on a une politique pavillonnaire qui est poussée par cet intérêt, parce que dans le reportage, il dit 2 Français sur 3. Mais en fait, aujourd'hui, on est plutôt plus proche de 80% des Français qui souhaitent encore résider dans un pavillon avec son jardin.
Donc le rêve est le même. Ça n'a pas bougé en 50 ans.
Et même plus encore, on voit que les premières estimations, les premières enquêtes faites au début du XXe siècle, on voit déjà 80% à peu près.
Allez, on y revient ensemble dans un instant. La France périurbaine, on la découvre mieux avec vous dans La Tête au Carré.
Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux. Je ne sais plus où donner du regard. Au dehors, il y a cet enfant et ce vieux chien qui dort. Il y a ce chantier et ces grues. Au milieu, il y a tant de choses qui repoussent la mort, d'images qui saisissent et rendent presque heureux. Souvent je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort, d'une image à sauver. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Je ne savais pas quoi faire, on m'a si peu appris. Un jour j'ai regardé dehors et j'ai compris. Un jour j'ai regardé et pensé ça suffit. Mes yeux me suffiront pour sentir que la vie, et même si je ne suis pas dedans, si je suis en dehors ou juste au bord du plan, il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Gagner parfois quand le temps vous oublie.
Le temps qui passe sans moi, c'est le nouveau titre de Dominique A.
La Tête au Carré sur France Inter.
À l'extrémité de la métropole, en parcourant les ruelles du quartier des Noues de Goussainville, nous avons rencontré Mehdi. Avec Joanne, sa compagne, ils ont quitté la cité de l'Est de Paris, dans laquelle ils ont grandi.
Comment on arrive ici? C'est tout simple, hein. On a un budget, on cherche ce qu'on peut avoir par rapport à notre budget, et puis on enlève la moitié de nos envies, et puis voilà quoi. Maintenant, je pense qu'on va là où on peut acheter, quoi. Ici, c'est desservi, il y a le RER, mais il y a quand même des grosses contreparties, quoi. Il faut quand même vivre avec les avions, avec la pollution, avec les dégazages de kérosène, la pollution sonore, la pollution, toute la pollution, quoi.
Voilà, extrait d'un documentaire diffusé en 2013, La France d'en face, diffusé sur France 3 pour parler de la France périurbaine avec Hervé Marchal, professeur à l'Université de Bourgogne, et Jean-Marc Stébé, professeur à l'Université de Lorraine. Nos invités donc cet après-midi. Qu'est-ce qui attire justement, Hervé Marchal, les familles vers ces zones périurbaines? Alors, est-ce que ce sont des questions économiques avant tout ou pas?
Pas seulement, bien sûr qu'il y a des questions économiques. Il y a une envie de nature, envie d'avoir un jardin, de voir ses enfants gambader dans le jardin. Le rêve aussi de faire un barbecue le dimanche. Et puis il y a une sorte de fantasme, de solidarité. On va être à la campagne avec une sorte d'ambiance villageoise dans le lotissement. Et puis finalement,
on va s'apporter des paniers de cookies, c'est ça un petit peu.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il est difficile de prendre en compte tous les paramètres qui vont intervenir après dans le quotidien des pavillonnaires. Mmh. Là, ce que dit cette personne est extrêmement intéressant. On essaie de calculer, mais finalement, nous, on a été très très surpris parce que on l'a dit, le périurbain est pluriel. Il y a les premières couronnes du périurbain, première, deuxième couronne, et après, quand on s'éloigne, le rêve pavillonnaire se transforme souvent en désenchantement pavillonnaire. Ça a été pour nous un résultat vraiment auquel on s'attendait absolument pas.
Mais ça, c'est au fil des kilomètres, finalement.
Là, il y a un effet de
distance. Cette observation.
Ouais. Et on touche un point important, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'entrée sociale par les catégories sociales et l'entrée spatiale vraiment par les territoires et l'effet de distance.
C'est ça.
Mais là, il y a un effet de distance qui joue. On l'avait vu avec des enquêtes quantitatives, mais au niveau qualitatif, on a fait des entretiens. Donc, on est chez des personnes qui ont réalisé leur rêve pavillonnaire. Ils ont un pavillon confortable, 140 mètres carrés habitable, cuisine équipée. Ils vous racontent pendant une heure et demie que c'est leur rêve et qu'ils réalisent leur rêve. Mais le pavillon est à vendre. Ça fait 5 ans qu'ils sont dedans. Et là, vous rasseyez et l'entretien continue une heure et ils vous décrivent tous les inconvénients, tous les coûts auxquels ils n'avaient pas pensé. Et finalement, que ce rêve d'une vie à la campagne, eh bien, on ne voit pas la campagne parce qu'on n'a pas le temps, parce que finalement, l'ambiance villageoise, on n'y vit pas dans le village. Et cette ambiance villageoise nous est inconnue. Mmh. Et puis la ville, on n'a plus le temps. Et puis les enfants grandissent. Et puis il faut acheter peut-être un scooter. Et tout ça devient très complexe. Et puis la maison vieillit. Vous voyez, et tout ça entre en ligne de compte, et finalement, le rêve pavillonnaire, eh bien, parfois, ce n'est plus du tout un rêve. Alors, c'est pas non plus un cauchemar, mais en tout cas, on pense
partir. Il y a un désenchantement, là.
En tout cas, il y a un désenchantement.
Alors, ça, c'est un aspect des choses,
oui,
effectivement, parce que Jean-Marc Stébé, on peut aussi parler de gentrification aussi pour le périurbain, quand même, hein.
Bien sûr, il y a des personnes qui sont de catégories relativement aisées, classe moyenne, moyenne supérieure, qui choisissent de venir dans des villes village à fort patrimoine, disons, environnemental et historique, et qui vont s'installer dans le cœur des villages ou à l'orée des villages pour justement bénéficier de cet environnement naturel et historique.
Mais dans un village avec un clocher, justement, on est dans du périurbain aussi, alors.
Oui, parce que le périurbain, c'est toutes ces communes et ces 15 millions de personnes, c'est extrêmement hétérogène, ça va de la ville au bourg et en même temps au petit village. C'est un mélange extrêmement hétéroclite.
Donc ce ne sont pas que des villes nouvelles non plus.
Non plus.
Il faut le comprendre aussi dans sa pluralité.
Bien sûr.
Hervé Marchal.
Oui, nous on a forgé le concept de pré-urbain pour rendre compte de cette complexité.
Alors voilà, pré-urbain, ça c'est une autre couche finalement.
Tout à fait, pré-urbain. Mais il y a le périurbain historique densifié qui date des années 70-80, et ensuite on voit que des ménages modestes, comme dans le reportage, vont s'installer au-delà du périurbain historique, qui est dense aujourd'hui, hein. Il y a très peu de foncier disponible. Et là, effectivement, c'est un autre territoire. Notamment, il y a beaucoup de jeunes, mais on les voit pas. Donc là, on s'est dit, mais est-ce qu'on garde ce mot périurbain au risque, finalement, de cacher, d'occulter la complexité des dynamiques sociales et spatiales et des mobilités en jeu, ou est-ce qu'on, finalement, on décortique, vraiment, on analyse, on décortique la réalité? C'était notre choix, pour rendre compte d'un territoire qui est du périurbain éloigné, mais qui a ses propres logiques aujourd'hui. C'est qu'à ses propres logiques.
Ouais. Et quelles sont-elles alors?
Eh bien, des logiques de mobilité, parce que là, il y a une dépendance automobile radicale.
Ouais.
Ce sont des ménages moyen-moyen, comme on dit, c'est-à-dire modeste ou même populaire parfois, donc qui s'endettent longuement pour un pavillon. Et ce sont aussi des ménages qui vont être en proie, qui ne vont pas bouger le week-end, par exemple. Donc ils vont être des fois prisonniers de leur pavillon. Des fois, on est prisonniers de sa propriété, vous voyez. Et là, nous, on a vu des scénarios hallucinants, en fait. Hein.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle de cet entretien, on est avec une dame d'un certain âge et qui me dit je ne divorce pas parce que si je pars du pavillon, le pavillon, on ne le vendra jamais le prix qu'on l'a acheté. Il s'est dégradé en une dizaine d'années de manière considérable parce qu'il était de mauvaise facture. Et si on divorce, je sais où on va finir. On va finir là où on n'a jamais voulu aller. Dire dans une cité d'habitat social, HLM paupérisé de banlieue. Et là, quand vous avez des scénarios de vie comme ça, c'est pour ça que le rêve pavillonnaire et le rêve du périurbain, à certains endroits, oui. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Jean-Marc, donc il y a ces processus de gentrification émergents en ce moment qu'on est en train d'observer, qui sont passionnants, à ne pas confondre avec la clubisation, qui sont des communes périurbaines historiquement huppées dès le départ, où il n'y a pas de remplacement des catégories populaires par des catégories aisées, tout simplement parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de catégories populaires.
On verra aussi l'exemple américain, hein, parce qu'il incarne aussi le périurbain, évidemment, avec toutes ces zones qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Et l'exemple de la Californie, on écoutera ça tout à l'heure avec la gentrification. J'ai bien du mal avec ce mot. Jean-Marc Stébé, justement, les principales critiques adressées justement à cette périurbanité, qu'est-ce que c'est alors? C'est le repli sur soi, c'est le côté pas du tout écolo, par exemple, des choses.
Alors, par exemple,
la laideur des lieux.
Bien sûr. Il faut, tout à l'heure, on disait qu'il faut peut-être regarder un peu l'histoire parce que historiquement, les premiers chercheurs à vraiment avoir travaillé sur les pavillonnaires et le périurbain, c'est Henri Raymond de l'université de Nanterre, qui a écrit avec toute son équipe un ouvrage qui s'appelle Les pavillonnaires. Et là, le moteur de sa recherche, c'est d'essayer de montrer dans une période où le marxisme est très présent en sociologie, il essaie de montrer que les habitants du périurbain ne sont pas forcément individualistes et des petits bourgeois. Et donc, aujourd'hui, la critique qui est faite sur le périurbain, c'est surtout une critique encore sur petits bourgeois individualistes et puis des pollueurs aussi, qui utilisent leur voiture et qui ne réfléchissent pas aux conséquences de leur achat loin des centres-villes et qu'ils seront obligés de faire les navettes quotidiennement entre leur lieu d'habitation et leur lieu de travail qui se trouve souvent dans l'aire urbaine et dans la centralité.
Alors Hervé Marchal, justement, au contraire, vous montrez de nouvelles pratiques citoyennes aussi dans ces territoires périurbains.
Oui, et quelque part nos recherches en témoignent parce que nous avons été financés par des collectivités territoriales qui avaient envie de comprendre ce qui se passait, qui avaient envie de soutenir des associations. Donc il y a aussi des protocoles de recherche-action qui se mettent en œuvre. Et donc nos propres recherches incarnent finalement cette volonté de réfléchir aussi à d'autres mobilités parce que effectivement il y a la dépendance automobile, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de commerces de proximité, que les navettes se raccourcissent, qu'il y a aussi des équipements culturels. Les urbanistes montrent bien. C'est aussi incrémental, ça veut dire que ça se fait pas à pas, justement à l'aide de chercheurs, à l'aide d'élus, d'habitants, et les habitants sont très demandeurs. Je vous donne un petit exemple, la première restitution en 2012-2013, Jean-Marc, tu te rappelles, on était à 25 km de Nancy dans le périurbain éloigné, 150 personnes. Dans une salle comble. Ouais. On s'est dit, mais ils viennent pour nous. Enfin, ils sont trompés. Il y a un concert. Vous voyez? Non, mais, et donc, ça veut dire, et les gens sont demandeurs. Et là, il y a vraiment des initiatives citoyennes au niveau aussi de la vente de produits frais, etc. Donc, c'est tout ça aussi le périurbain. Ce sont pas, je vais être un tout petit peu cash, mais ce sont pas des gens qui sont irresponsables écologiquement. On en a parlé, nous, dans les entretiens, bien évidemment. C'est bien plus complexe.
Allez, on poursuit la discussion dans un instant. On se retrouve après Bertrand Belin, la bicyclette, justement, ça tombe bien. Et on part aux États-Unis juste après pour voir le périurbain aux USA.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait François, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Et ça lui va très bien de reprendre ce titre, la bicyclette, Bertrand Belin.
La tête au carré sur France Inter.
La France périurbaine aux éditions Que sais-je, Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé pour nous en parler, et les messages des auditeurs. Jean-Marc qui nous écrit, nous dit, pour avoir beaucoup parcouru la France en tant que photographe, je suis désespéré par la prolifération des centres commerciaux dans les zones périurbaines, des centres qui rivalisent de laideur entre les immenses parkings, les hangars abritant les hypermarchés. Il n'y a pas une ville sans ces extensions urbaines similaires. Quand Télérama titrait comment la France est devenue moche, c'était vraiment en faisant allusion à ça aussi, hein, beaucoup, Hervé Marchal. Hein.
Si on se limite à cela, cette ouais. dimension, en effet.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est complètement défiguré, là, pour le coup, non ?
Oui, tout à fait. Alors, nous, on essaie d'avoir un regard analytique. Après, les politiques prennent leurs responsabilités. Mais effectivement, ces grands centres commerciaux, on commence par construire, par bitumer. À Nancy, il y a un centre commercial, c'est 10 000 places de parking. On est bien à Nancy, hein, on n'est pas à Marne-la-Vallée, hein, on est à Nancy, c'est incroyable. Donc on a bitumé l'espace de manière considérable. En ce sens, le périurbain souligne de manière indéniable des enjeux en termes d'artificialisation des sols. Ça, il faut être très clair là-dessus. Mais ce que nous recherchons, on montrait, c'est que pour les catégories sociales les plus modestes, le centre commercial représente la sortie du samedi après-midi. Et il n'y a aucun vraiment jugement hein, dans ce que l'on dit avec Jean-Marc, mais une autre enquête quantitative, hein, on avait un échantillon comme de 1200 questionnaires, hein, ouais. 7000 questionnaires, 1200 questionnaires en retour, et là, les chiffres étaient incroyables. Ouais. C'est-à-dire qu'on est attiré par les paillettes dans la ville quand on en est privé.
Ouais. Est-ce qu'on quitte finalement les lieux de culture aussi quand on part dans ces zones périurbaines? On a l'impression qu'il y a moins de théâtre, il y a moins de possibilités d'aller voir un musée.
Alors là, dans votre question, c'est très intéressant, parce que justement, il faut faire attention à la définition de la culture, parce qu'on parle de culture légitime, hein, la culture cultivée, si je peux me permettre, mais notre rôle aussi de sociologue, c'est de regarder le périurbain à partir d'autres focales, et non pas forcément à partir d'un regard urbano-centré. D'ailleurs, ce serait intéressant de le regarder du point de vue du rural, c'est ce qu'on essaie de faire un peu aujourd'hui, pour vraiment regarder toutes les facettes, parce qu'effectivement, c'est vrai, la culture légitime, elle n'est pas au centre des pratiques de beaucoup de périurbains. Je mets quand même des guillemets, parce qu'il faudrait avoir des données plus précises. Mais il y a d'autres pratiques culturelles, notamment, je regarde Jean-Marc, mais l'hybridation entre l'urbain et le rural, par exemple, les techniques, les pratiques d'affouage au niveau du bois, des gens qui viennent de la ville apprennent effectivement, s'achètent une petite tronçonneuse et vont couper un peu de bois pour l'hiver et découvrent aussi le jardin, etc. Donc là, vous voyez, il y a aussi de la culture, mais c'est pas la culture au sens légitime.
Jean-Marc Stébé.
Oui, effectivement, le centre commercial peut devenir un lieu de regroupement. mouvement est le territoire d'un un territoire émergeant de sociabilité.
On peut aller au cinéma d'ailleurs, il y a beaucoup de cinéma dans ces centres commerciaux.
Eh bien, dans ces centres commerciaux, effectivement, c'est un lieu
et des librairies.
Bien sûr, des cinémas, et vient s'agglomérer autour de ce centre commercial, de ce centre de ces cinémas, les pavillons et les écoles, et etc. Et donc, ça devient ce que certains chercheurs appellent la ville émergente. Vous voyez, aujourd'hui, on a une ville qui est faite de couronnes, comme on l'a montré, hein, donc la ville-centre, la banlieue, le périurbain avec ses nombreuses couronnes, le préurbain et le rural, mais nous avons aussi une ville qui est atomisée. À l'intérieur de ces couronnes, nous avons des atomes, des villes émergentes qui sont dynamisées par, éventuellement, ces centres commerciaux, ces cinémas à l'extérieur de la ville.
Françoise nous dit, il ne faut pas oublier que le marché de la maison individuelle s'effondre depuis plus d'un an et les Français se rendent compte que ce mode de vie à la campagne, avec des guillemets, coûte beaucoup plus cher que prévu au départ. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Hervé Marchal.
Oui, et là, cette auditrice soulève une question fondamentale, c'est-à-dire que les pavillons aujourd'hui accueillent beaucoup de personnes âgées parce qu'elles ont acheté leurs pavillons dans les années 70-80. Et donc, de fait...
La question du vieillissement aussi.
Bien évidemment. Donc, centrales. De fait, il y a beaucoup de pavillons qui vont se libérer, de fait, du niveau de l'âge, simplement de la mortalité. Il y a beaucoup de pavillons qui vont se libérer dans les années à venir. C'est une question fondamentale à prendre en compte. Et on remarque des inégalités de prix très fortes au sein même de ce qu'on appelle le périurbain. On peut avoir des pavillons extrêmement cotés à 10 km de la ville-centre, 12 km de la ville-centre, avec effectivement, dans un processus de gentrification ou de clubisation, et à 10 km, on est dans une autre réalité. Vraiment, les prix ne sont absolument pas les mêmes, que ce soit l'immobilier ou le foncier. Donc c'est tout ça le périurbain.
Jean-Paul nous dit, pose une question, comment va évoluer l'habitat périurbain avec le prix de l'essence qui augmente et les enjeux énergétiques liés au transport justement?
Alors c'est une question qui préoccupe beaucoup de mairies, de communes, et le pouvoir politique qui, dans les plans locaux d'urbanisme et dans les schémas de cohérence territoriale, essaie de trouver un moyen pour densifier justement ces zones périurbaines, pour éviter que la ville se diffuse au-delà des limites aujourd'hui. Donc on a, par exemple, des possibilités aujourd'hui de densifier les lotissements pavillonnaires. Les personnes vieillissent, elles ont plus les enfants, parfois le conjoint est décédé, et ils ont du mal à payer les charges, les impôts locaux, etc. Et donc, les municipalités vont essayer de négocier avec les propriétaires pour couper la parcelle en deux, une parcelle de 1000 m2, on va proposer d'en prendre 500 m2 et d'installer un nouveau pavillon. C'est ce que l'on essaye de faire aujourd'hui. On essaye de densifier pour éviter cette diffusion de la ville.
Hervé Marchal.
Oui, il y a certainement ici des enjeux très importants qui sont soulevés, à commencer par la révolution, qu'on appelle la révolution de mobilité. C'est-à-dire, c'est penser la cohérence du territoire bien au-delà de l'échelle de l'agglomération, de l'échelle métropolitaine, et inclure les territoires périurbains, de ce qu'on appelle le préurbain, mais même jusque dans les zones rurales, pour penser des schémas de cohérence au niveau des mobilités. Penser en termes de système. Je vous donne simplement un petit exemple pour bien comprendre. Il y a des bus de la ville qui font demi-tour à certains endroits, qui sont à 500 mètres d'une commune périurbaine, mais ils n'y vont pas parce qu'il y a une limite administrative. Les mêmes bus, inversement, les bus de la communauté de communes qui est du périurbain, les mêmes bus, font aussi demi-tour. Je veux dire, il faut penser une cohérence territoriale en termes de système.
Ouais, c'est la conclusion d'ailleurs de votre ouvrage. C'est repenser complètement.
Exactement. On n'est pas tous les seuls à penser ça. Mais si Monsieur Macron effectivement veut que tout cela soit intégré et qu'il y ait de la mobilité, des déplacements et du contact et des rencontres, etc., et que tout le monde se sente intégré, je ne vois pas comment on peut faire autrement.
Alors l'exemple des États-Unis, il est intéressant aussi parce qu'il y a eu cette extension urbaine absolument illimitée. Et il y a à la fois, alors par exemple l'exemple de la Californie, une paupérisation et une gentrification. Il y a les deux phénomènes en même temps. Ouais. C'est-à-dire une extrême pauvreté avec aussi des personnes qui travaillent et qui ont des salaires extrêmement importants et l'accès à un logement qui coûte très cher.
Oui, de même qu'il y a des Frances périurbaines, il y a des périurbains aux États-Unis. La grande différence, c'est que le périurbain aux États-Unis, en fait, C'est fait dans un vide spatial. Hein. Nous, on avait des cœurs de village hein, qui ont été englobés dans le processus d'urbanisation, de périurbanisation, d'étalement urbain. Là-bas, pas du tout. C'est-à-dire que des fois, on n'a même ni centre-ville, ni banlieue. C'est tellement étalé. Mais effectivement, ça montre bien. Et on avait coordonné un numéro de la Revue française de sociologie avec Jean-Marc, où il y avait un article sur, effectivement, aussi les enjeux autour de l'eau. Et on voit bien que là, on voit toutes les disparités du périurbain qui rentrent aussi avec des aménagements, des équipements et l'accès à des ressources. Donc, c'est vraiment, il y a tout ça derrière le mot périurbain.
Jean-Marc Stébé.
Oui, ça s'est fait dans un vide spatial, comme vient de dire Hervé, et dans une autre problématique importante aux États-Unis, c'est la place de la voiture. La place de la voiture, depuis les années 30, est extrêmement considérable. Un seul chiffre, en 1924, 83% du parc automobile mondial se trouve aux États-Unis. Et donc, de fait, le périurbain n'a pu exister aux États-Unis comme en France que grâce à la voiture ou que à cause de la voiture, parce que s'il n'y avait pas de voiture, il n'y aurait pas de périurbain. La ville se diffuserait beaucoup moins. Voilà.
La ville emblématique du périurbain aux États-Unis, c'est Los Angeles, justement, quand on pense à cet étalement illimité,
sûr,
où il faut faire quasiment 200 kilomètres, on peut faire 200 kilomètres dans la même rue.
Bien sûr.
Donc il faut la voiture.
Bien sûr, Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, etc., ce sont des grands boulevards qui vont de l'océan Pacifique au désert de Mojave, bien sûr.
Il y a des gated communities comme Canyon Lake, hein, qu'on a décrit dans un ouvrage.
Voilà, c'est ça. Et on a aussi Phoenix, aussi. C'est aussi une autre ville paradigmatique. De la ville américaine étalée sans véritablement de centre aussi. Ouais. Hein, le downtown, on a parfois du mal à le trouver. Alors à Los Angeles, c'est un peu plus facile, mais Phoenix, il faut vraiment le chercher, le downtown.
Et dans les zones très arides aussi, où le problème de l'eau est absolument crucial dans ces zones. Vous travaillez en tout cas sur un autre sujet, ce sont les pavillons, justement, on l'a évoqué, parce que ça c'est absolument crucial aussi au cœur de la France. Ouais, hein. C'est 20 millions de personnes qui possèdent des pavillons sur 35 millions d'habitations dans notre pays. Hein, donc c'est absolument gigantesque.
C'est ça. Si le pavillon est en train de diminuer pour des raisons financières.
Vous allez vous y intéresser. Merci beaucoup. En attendant, on peut lire La France périurbaine et c'est paru aux éditions Que sais-je. Merci Hervé Marchal et
merci
Jean-Marc Stébé d'être venu dans La Tête au Carré.
Merci de nous avoir invités.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Eh bien, ce sont les questions auxquelles tente de répondre le documentaire de ce soir à 20h50. Bonsoir, bonjour plutôt Perrine Poubeau.
Bonjour Mathieu.
Avec ce film En quête de vie dans l'univers.
Oui, et ces questions se posent en fait à l'humanité depuis l'Antiquité. Les Grecs, les Romains, les Chinois se posaient déjà la question. Ouais. Mais aujourd'hui, les scientifiques s'approchent de plus en plus de la réponse. Ils observent le cosmos dans le but de détecter les trois éléments nécessaires à la vie telle qu'on la connaît, une source d'énergie, de la matière organique comme le carbone par exemple, et la présence d'un liquide.
Et c'est la mission de nombreuses sondes spatiales qui ont été lancées pour explorer par exemple Mars ou les satellites de Saturne, c'est ce qu'on verra.
Et en fait, il y a quatre candidats dans notre système solaire qui pourraient réunir ces conditions essentielles à la vie. Mars, Titan, Encelade et Europe. Mais au-delà de notre système solaire, parmi les milliards d'exoplanètes, il est possible que nous trouvions un jour une forme complexe du vivant semblable à la vie sur Terre.
Et c'est notamment grâce au télescope Kepler qui a révolutionné l'astronomie depuis ces dernières années dans la recherche de ces planètes lointaines.
Oui, et notre documentaire justement de ce soir explique très bien la technologie de pointe qui permet à ce télescope de détecter une planète en fonction des variations de luminosité de son étoile.
Et on écoute un extrait.
Le 23 juillet 2015, l'équipe de la NASA en charge du télescope spatial Kepler annonce une nouvelle découverte fascinante. Une exoplanète analogue à la Terre vient d'être localisée. Son nom, Kepler-452b. En quoi cette nouvelle réplique potentielle de la Terre diffère-t-elle de celle découverte précédemment? Kepler-452b est la première planète apparemment rocheuse en orbite autour d'une naine jaune, le même type d'étoile que notre Soleil.
Et grâce aux très belles images de synthèse, on va donc découvrir des planètes qui ressemblent beaucoup à la nôtre.
Oui Mathieu, mais on va aussi faire connaissance avec des mondes très différents. comme par exemple la planète Diamant, la planète Noire, ou encore Kepler 16b, qui gravite autour de deux étoiles à la fois.
Un double coucher de soleil, hein, on se croirait dans un film de science-fiction.
Oui, et c'est, en fait, ce n'est vraiment qu'un début, parce que le télescope James Webb, qui est encore plus puissant et qui doit être lancé en 2021, nous réserve encore certainement de belles surprises.
Enquête de vie dans l'univers, ce soir, 20h50 dans Science Grand Format, sur France 5. Périne, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.
Merci Mathieu.
Ainsi s'achève notre tête au carré. Demain, ce sera le club du vendredi. Il sera question de jeux d'échecs, du commencement du monde et de plantes alimentaires. En attendant, merci à Pierre Lemierre qui était aujourd'hui à la technique.